Notre invité aujourd'hui, Robert Faghi.
Bienvenue à Facteur humain, le balado. Pensée et réalisée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à notre co-animatrice, Mélanie Boutin.
Bonjour.
Notre invité aujourd'hui, Robert Faghi, professeur de théâtre au département de littérature, théâtre et cinéma et directeur du Laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène, mieux connu sous le nom de LANTIS. Robert Faghi, bonjour.
Bonjour.
Robert, vous êtes aussi et au départ un praticien, un créateur, un performeur. Vous avez fondé et dirigé pendant une quinzaine d'années la compagnie théâtrale Arbo Cyber Théâtre, point d'interrogation, donc une compagnie de théâtre expérimental. Comment le praticien est-il devenu chercheur ou quel est votre parcours?
Bien, le parcours, à vrai dire, il commence à l'université parce que j'ai pas fait une école professionnelle, comme on dit dans le métier. Donc, il y a les conservatoires, il y a l'École nationale de théâtre, il y a les cégeps qui forment des praticiens du théâtre, donc des acteurs, des scénographes. Les metteurs en scène, il n'y a pas vraiment de programme là-dessus, sauf peut-être un peu à l'École nationale. Et donc, moi, j'ai étudié à l'Université Laval et à l'époque, c'était une mineure, donc c'était un an de théâtre. Et donc, j'ai fait un bac multi parce que, bizarrement, je suis arrivé au théâtre par la porte d'en arrière dans mesure où j'étais plus en cinéma, j'étais beaucoup plus porté vers le cinéma. Et puis, j'ai travaillé même à la faculté comme aide personne ressource en cinéma. Et j'ai suivi un cours de théâtre qui n'était même pas dans mon parcours régulier. Et avec ce cours-là, ben, ça m'a ouvert les yeux sur une nouvelle réalité que je connaissais, bien sûr. Ben, j'avais fait du théâtre, mais je voyais qu'on pouvait faire du théâtre un peu autrement. Donc, beaucoup plus proche de l'improvisation, de la performance. Et là, j'ai trouvé que le théâtre, c'est peut-être un médium qui m'intéressait parce que j'avais de la misère avec dans le processus de création du cinéma, c'est que c'était tellement long à partir d'une idée de se rendre jusqu'au bout. Il y avait des étapes, on tournait, ensuite on faisait développer les films. À l'époque, c'était du 16 mm, donc... Et je trouvais que c'était un processus qui pour moi, ne collait pas à ce que je voulais, c'est-à-dire vraiment le côté instantané. Bizarrement, au début des années 80, sort le médium vidéo. Et avec le vidéo, on est capable de faire du temps direct. On est capable de capter tout de suite, je dirais, le son. Déjà, de capter le son et l'image en même temps, c'était déjà une belle avancée. Mais on pouvait aussi le rediffuser en direct. Et on pouvait l'écouter, prendre justement une prise et l'écouter tout de suite pour voir si la prise était correcte. Alors, c'est sûr que le média était vraiment pauvre parce que la résolution était à l'époque très pauvre. Mais je trouvais que c'était un médium qui était intéressant. Alors, juste pour dire que justement, je viens d'université d'un parcours multidisciplinaire. Et lorsque j'ai commencé mon parcours d'artiste, il y a presque 40 ans de ça déjà, je me suis déjà annoncé comme étant un artiste multidisciplinaire. Pour moi, il était pas la discipline était tout simplement un choix qu'on faisait. J'ai fait partie d'un groupe de musique alors que j'étais pas musicien. J'ai fait des installations en art visuel alors que je suis pas un artiste nécessairement en art visuel. Et donc, la liberté qu'on a de choisir le média qui est le plus propice pour parler de notre idée, de notre concept ou de faire valoir nos idées, nos concepts. Mais à ce moment-là, je pense que c'était ça qui, pour moi, était intéressant. Et c'est comme ça j'ai commencé avec Lucie Fradet, ma conjointe, à former la compagnie Arbo Cyber Théâtre, justement, pour pouvoir faire de l'expérimentation. Donc déjà, on était dans un processus de recherche. On s'appelait théâtre de recherche. Parce qu'à l'époque, le théâtre de recherche était un théâtre qui était autour du corps, alors que nous autres, on voulait faire l'expérience théâtrale avec le spectateur comme étant la matière première. Donc, de créer une expérience avec le spectateur et en incorporant d'autres médias. Donc déjà, l'idée multidisciplinaire faisait en sorte qu'on incorporait des médias dans le dispositif théâtral. Et c'est comme ça qu'on a fait de multiples expérimentations. Alors, c'était le parcours. On a fait une trentaine d'expériences, de spectacles, de performances avec Arbo Cyberthéâtre. Et ensuite, bien, je suis revenu à l'université faire une maîtrise parce que je trouvais que l'idée d'incorporer la vidéo au théâtre, ça me questionnait beaucoup. Et je voulais développer un peu l'idée un peu plus loin. Donc, c'est comme ça que j'ai fait un parcours avec Irène Perelli-Contos de réflexion sur l'utilisation de la vidéo, en particulier sur l'espace. Donc, ma maîtrise, je me suis concentré sur l'espace. Et ensuite, bien, ça a continué sur un doctorat où j'essayais de tout couvrir. Je voulais écrire la Bible, d'une certaine manière, de la vidéo au théâtre. Donc, à un moment donné, je me suis restreint un peu parce que là, je couvrais peut-être un peu large. Mais il n'y avait tellement pas d'écrit à l'époque là-dessus. Donc, je me suis dit, bien, je pense que ça vaut la peine de faire une sorte d'ouvrage fondateur dans lequel on va questionner pourquoi on utilise la vidéo au théâtre, comment on l'utilise, mais surtout le pourquoi, donc l'intention, la justification un peu de cette vidéo-là.
Vous parlez de book, Robert, de recherche-création. Recherche-création, on entend beaucoup de définitions. Il y a différentes façons de la pratiquer, de la financer, de la revendiquer même. Entre toute recherche et création et toute création implique la recherche, est-ce qu'il y a un certain consensus autour de ce qu'on appelle la recherche-création?
Ben oui, il y a un certain consensus, mais il est clair que les voies sont multiples et donc sur la multiplicité des voies, là, il n'y a pas consensus nécessairement. Donc, alors, si je récapitule un peu, il n'y a pas de consensus dans la mesure où il y a plusieurs voies, plusieurs manières de faire. Il y a même des écoles, c'est-à-dire moi, j'ai fait partie de groupes de recherche-création en Europe du Nord, par exemple, ça se fait complètement différemment qu'en Angleterre, par exemple, ou en Afrique du Sud. Et aux États-Unis, ça se fait d'une autre façon, dans le milieu, même anglophone canadien aussi, ils ont une autre approche. Et au Québec, bien, c'est quand même assez récent et je trouve qu'on a quand même une approche intéressante qui est une sorte de mix un peu peut-être entre les milieux européens et américains. Je dirais la portée de la recherche-création, elle est grande et les approches pour y entrer aussi sont grandes et c'est difficile. Tu sais, on ne pourrait pas en 10 minutes ici faire le tour. Moi, j'ai une façon de faire, donc j'ai une façon de penser la recherche-création. Avec les étudiants, je les incite à aller dans un domaine. Mais encore là, les voies sont multiples et ça dépend de quel étudiant, à vrai dire. Et ça dépend qui fait la recherche-création. Pour moi, je fais la différence entre quelqu'un qui a une pratique soutenue. J'ai des étudiants qui ont 30 ans de pratique derrière et donc qui reviennent à l'université pour réfléchir à la fois sur leur parcours et éventuellement ouvrir de nouveaux champs d'exploration, donc avec peut-être des technologies ou non, peu importe. Mais à ce moment-là, la recherche-création va se faire complètement différemment d'un étudiant qui sort du baccalauréat, qui s'en va à la maîtrise et qui n'a aucune expérience pratique. Et donc, à ce moment-là, il faut que notre approche soit complètement différente parce que, justement, on ne se basera pas sur tout le savoir-faire ou le savoir-être de la personne qui a 30 ans de métier. Et donc, on va lui demander d'explorer de façon différente. Et même la problématique, je dirais, parce qu'on est dans la recherche, donc il faut un peu problématiser notre volonté de recherche. Et à ce moment-là, bien, la problématique, c'est clair qu'elle va être différente aussi de quelqu'un qui a 30 ans d'expérience. Alors ça, c'est pour moi, c'est déjà deux avenues un peu différentes de voir quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui c'est l'aboutissement un peu d'une réflexion aussi qui veut mener.
Justement, la recherche-création, tu sais, moi, je suis moins familière avec ce concept-là. La recherche, on le comprend bien, mais quand on intègre les deux, ça se passe comment concrètement, la recherche-création?
Alors, dans les faits, on parlait de boucle tantôt, bien pour moi, c'est encore l'effet de boucle. Mm-hmm. Pour moi, ben, alors là, des fois, il y a des collègues avec qui je ne m'entends pas nécessairement parce que la recherche-création en littérature, par exemple, est différente de la recherche-création en art de scène. En art de scène, on travaille avec des équipes, on travaille avec un collectif parce que c'est rare qu'on peut mener une création tout seul. Donc, et à ce moment-là, la dimension recherche va être beaucoup plus large quelquefois. Et ce qui est pour moi important dans l'idée de la boucle, c'est que la création sert la recherche et la recherche, donc les lectures théoriques, le fait d'aller voir d'autres artistes, comment ils fonctionnent, ça va nourrir aussi la création. Mais ultimement, ce qui va être jugé, ce n'est pas la création. Parce que en art de scène, on n'a souvent pas les moyens ici de mener une création comme on voudrait le faire dans, mettons, dans un milieu professionnel. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes critères de jugement. On ne peut pas dire, tiens, là, au bout du compte, on va juger de la création. Je sais qu'en en littérature, souvent, on va juger le roman ou l'essai qui va être mené. Ici, moi, en tout cas avec les étudiants, je fais en sorte que dire la création, ce n'est pas le but ultime. La création, le processus de création a permis de faire des constats, a permis, et souvent on va fonctionner en laboratoire, en petit laboratoire où on va isoler certains paramètres, exactement comme en recherche scientifique, et on va essayer de faire le tour à travers différents petits laboratoires. Et quelquefois, ça n'amène même pas un projet final, mais tout le processus de création dans lesquels il y a eu une évolution de la pensée, dans lesquels on a pu tester certains petits éléments, des fois 5 minutes seulement, mais on dit « Ah, tiens, ça, il y a quelque chose là », qui va peut-être nourrir une création en sortant de l'université, mais au moins tout le processus de recherche-création va avoir été mené. Toute la méthodologie de garder des traces de cette recherche-là aussi. Alors ça, c'est ce qui est différent de la création habituelle, parce qu'en création habituelle, c'est les résultats qui comptent. Et donc, souvent, le processus, on le laisse dans des cartables, on l'oublie. Dans la génétique du spectacle, là, c'est des affaires qu'on ne pense pas tellement. Alors que quelqu'un qui est dans un processus de recherche-création va prendre beaucoup de notes, va bien documenter son processus parce que sa réflexion, il va souvent revenir à ses premières idées, à voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il veut comprendre tout le cheminement qu'il a fait. Et ça, pour moi, c'est un véritable processus où la recherche-création est reliée ensemble par un effet de boucle.
Mais il me semble y avoir un défi dans cette nécessité d'observer, de garder la trace du processus de création, comme de l'expérience théâtrale aussi. C'est quelque chose qu'on a l'impression, en tout cas du point de vue du spectateur, que c'est quelque chose de très éphémère, donc qui ne laisse pas vraiment de trace, sinon que la trace de la représentation de la création elle-même. Comment on fait pour garder la trace? Comment on fait pour archiver cette matière-là qui tient au processus, qui relève du processus de création?
Alors là, c'est un des bons enjeux parce que, justement, étant donné que j'ai dit que je faisais partie, en tout cas, qu'on avait nommé notre troupe Théâtre de recherche là, dès 1985, là, donc c'était là dès le départ, bien, déjà, on s'obligeait, nous autres, à garder des traces, des processus. Il y a aussi d'avoir que ces traces-là permettent la réflexivité sur les recherches qu'on a menées. Donc, et il est bien évident qu'en théâtre ou dans les arts de représentation, c'est très difficile parce que même pour nous, à Beau-Cyber Théâtre, on travaillait souvent avec des espaces éclatés. Et donc, si on filmait en vidéo, ça ne rendait pas du tout compte, je dirais, de l'expérience, parce que c'est comme si on contraignait le spectateur à n'observer qu'un seul point de vue, celui d'une caméra qui rouvre très, très peu devant lui. Là, et donc, le spectateur, à ce moment-là, a un champ très limité, alors que nous autres, c'est des espaces dans lesquels on se tourne la tête tout le temps, on est toujours à l'affût des sons qui sont derrière, etc. Et donc, il est clair que la question des traces, pour nous autres, elle est vite devenue un enjeu dans mesure où on ne pouvait pas penser que la vidéo pouvait suppléer à ça. Et donc, qu'est-ce qui peut suppléer à ça? Alors que souvent, on travaillait sans texte, en improvisation ou en performance. Alors, c'est là qu'est venue l'idée, à la fin des années 90, donc de mener un site web qui, malheureusement, n'existe plus parce que la technologie Flash n'est plus supportée. Mais on a essayé de recréer par le numérique l'expérience même de ce que les spectateurs auraient pu vivre au théâtre. Et donc, en amenant différents documents devant lui où il y avait à faire des choix, par exemple. Et c'est là l'idée de la dramaturgie plurielle, c'est-à-dire qu'on a plusieurs pistes d'action possible ou de visionnement possible. Et à travers nos choix, on est capable à un moment donné d'activer une piste plutôt qu'une autre ou les deux en même temps. Et donc, c'est là que l'expérience devient intéressante, autant au point de vue numérique. Et là, la question des traces commence à être intéressante parce que si on a le dispositif numérique pour mettre en scène les traces de ces expériences-là, peut-être qu'on va toucher un petit peu à ce qu'on pourrait appeler l'effet théâtre. Sinon, bien, il est clair que c'est impossible. C'est-à-dire, et on le voit très bien avec la pandémie. Les spectacles sur Zoom, oui, on a le contenu, mais on n'a pas l'expérience. Parce que l'expérience, c'est physique, ça se passe en salle. Il faut vivre au même rythme que l'humain qui est devant nous autres, alors qu'en Zoom, on n'est pas capable de faire ça.
Un des lieux principaux de vos expérimentations, Robert, c'est le Lantis, donc votre laboratoire, un lieu fascinant que j'ai eu le plaisir de visiter avec vous. Qu'est-ce qui se passe au Lantis? Pouvez-vous nous donner une idée des travaux qui y sont menés?
Bon, alors, c'est sûr que dans l'histoire, là, déjà, le Lantis, ça va faire bientôt presque 20 ans. Là. Ça va vite, mais au moins un bon 15 ans, là, bien ferme. Là. Donc, les avenues ont été multiples. Donc, il y a eu plusieurs types de recherches. C'est sûr que pour les étudiants, comme j'ai expliqué tantôt, on fonctionne souvent par laboratoire. Donc, 2-3 semaines où on a une idée et on essaie d'expérimenter cette idée-là. On essaie de ne pas nécessairement tout amalgamer ce qu'une création pourrait nous donner. T'sais, on n'ira pas tout de suite dans l'éclairage, le son, la vidéo, le jeu de l'acteur, etc. On va dire, non, t'as un peu. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux raconter une histoire, par exemple, avec... Je donne l'exemple souvent d'une étudiante qui vient du Costa Rica, qui est une metteur en scène reconnue, mais qui veut s'initier aux nouvelles technologies et qui veut expérimenter tout le potentiel de narration des nouvelles technologies. Et donc, on a fonctionné par laboratoire. OK, alors raconte-moi une histoire, mais tu vas la raconter uniquement avec la vidéo. Pas aucun corps sur la scène, pas de son, pas de... donc, uniquement de la vidéo, de l'espace scénographique. Et raconte-moi une histoire avec l'arrivée de lumière et l'arrivée de la lumière qui est créée par la vidéo et des images qui viennent transformer les objets qui sont sur la scène. Et ensuite, le deuxième laboratoire, on dit « OK, raconte-moi une histoire, mais uniquement avec le son. Aucun visuel. On est dans le noir. Essaie de me raconter une histoire dans la spatialisation. Essaie de recréer un lieu et raconte-moi sans parole, uniquement avec des sons. Raconte-moi cette histoire, une autre histoire, par exemple. » Et à la fin, elle arrive avec un résultat de synthèse dans lequel elle incorpore la vidéo, le son. Et à ce moment-là, elle comprend le potentiel de chacune des technologies qu'elle a utilisées de spatialisation sonore ou de spatialisation vidéo. Et donc, l'étape, justement, en laboratoire permet de creuser un peu plus loin un média plutôt qu'un autre, puis ensuite de pouvoir faire cette synthèse-là à la fin. Donc ça, c'est une des avenues que je privilégie beaucoup avec les étudiants. Il y a beaucoup de chercheurs, il y a des chercheurs, bien sûr, universitaires qui viennent faire des recherches, par exemple, il y a Jacques Plante qui est venu faire des recherches sur de monter une scénographie avec des palettes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est un architecte qui est capable de concevoir des plans, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a monté à un moment donné des palettes ici, et là, on a regardé tout le potentiel que présentait des palettes de bois, là, donc comme degré d'architecture, mais pour la projection, même pour l'audio, le caractère, mettons, sonore, etc. Donc là, on est vraiment dans des recherches qui nous permettent de pouvoir appliquer. C'est un peu de la recherche appliquée dans lesquelles on dit, OK, on prend un matériau puis on essaie de voir son potentiel. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent aussi en résidence au Lantis, donc ça, c'est agréable. Et souvent, c'est des phases de création très en amont d'une production finale. Et donc, ça permet à ce moment-là de pouvoir tester certaines idées, mais sans tout de suite l'embarquer dans le processus de production qui ne permet pas le temps de faire justement ces tests-là et donc de valider quelquefois des technologies. Lorsqu'on travaille des technologies interactives, par exemple numériques, quelquefois on peut passer beaucoup de temps à développer de la programmation, à développer des technologies. Et ça m'est arrivé trop souvent de voir des artistes qui ont mis tellement d'efforts là-dedans et à la fin, ça ne donne pas les résultats qu'on veut et on enlève tout ça. Et donc, on a passé des heures et des heures. Ça a coûté cher aussi, mais ça a coûté surtout le temps humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre à un moment donné des phases d'expérimentation vraiment en amont de la production pour uniquement faire cette validation-là. Une fois qu'on a validé, on dit, OK, là, la technologie, je pense qu'elle peut être efficace. Là, on embarque dans le processus de production. Alors, pour moi, ça, c'est une belle étape de recherche-création aussi de la part des artistes qui viennent en résidence à l'université.
Donc, c'est pas nécessairement des artistes en théâtre, de ce que je comprends. C'est vraiment l'art de la scène plus large que les gens vont lentissent, oui?
Oui, tout à fait. Bien, il y a des musiciens qui viennent expérimenter, par exemple, des dimensions interactives, de sons interactifs en spatialisation sonore jusqu'à 16 voix, 20 voix, donc 20 haut-parleurs. Puis c'est eux qui contrôlent en direct, par exemple, toute cette spatialisation-là. Mais ça part de l'idée de la musique, là, de l'idée du son. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on crée des réseaux, c'est-à-dire, alors, l'étudiant au doctorat qui a fait son doctorat, qui a fait un de ses travaux de doctorat là-dessus, bien, après ça, bien, il a intégré aussi le milieu. Il a travaillé pour des compagnies parce que les gens sont venus voir ce qu'il faisait, puis on dit, ah, bien, moi, j'aurais un projet, j'aimerais ça. Et là, on crée des petits réseaux à la fois de personnes qui sont intéressées à développer ces capacités-là d'utiliser la technologie pour rendre des créations vraiment à un stade plus avancé, par exemple. Alors, ça, c'est ce que j'aime bien un peu, là. C'est l'agence de rencontre un peu du lentiste, là. Alors, on va expérimenter ça, malheureusement, sans spectateurs, étant donné la pandémie, mais on l'expérimente entre nous. Mais au moins, dans le séminaire, on est capable. Ce qui est intéressant en recherche-création, c'est qu'on n'a pas peur de se casser la gueule. On n'a pas peur de l'échec parce que ça fait partie du processus. Alors, tu sais, je dis tout le temps, et je le dis en blague, mais pour moi, c'est un constat qui est fondamental. En recherche scientifique, une expérimentation qui ne réussit pas, ben c'est pas un échec, parce que ça veut dire que la voie que tu as empruntée, ben ça donne peut-être pas le résultat que tu veux, mais tu as quand même un résultat. C'est celui que ça ne fonctionne pas. Et donc, en recherche-création, ben c'est justement, il faut passer par ces étapes-là. Et donc, c'est pour ça que on ne peut pas penser recherche-création en fonction d'une création où la création devrait être le succès, le résultat dans lequel ça fonctionne. En recherche-création, on doit se permettre d'aller au bout de notre idée jusqu'à peut-être des avenues qui n'ont pas aucun aboutissement, donc qui ne fonctionnent pas. Mais si on est capable d'avoir une réflexion pourquoi ça ne fonctionne pas, bien, on va déjà engager une autre hypothèse de dire, OK, mais si je l'essaye de telle manière, qu'est-ce que ça donne? Et donc, ça, pour moi, c'est le véritable projet de recherche-création, de ne pas avoir peur de cet échec-là, de ne pas avoir peur d'aller au bout de l'idée, même si on n'est pas sûr que ça fonctionne. Mais pourquoi pas l'essayer? Je rêvais pour le lentiste. Je dirais, bien, j'aurais des sous pour accueillir des artistes qui viennent avec des étudiants, par exemple, travailler avec des étudiants, un peu sur le modèle du Frénois en Europe, où les professeurs, c'est des artistes invités. Donc, il n'y a pas de professeur permanent, il y a des artistes invités. Les étudiants sont invités à participer au travail d'un professeur qui va développer un projet de création lors de sa résidence. Puis en retour, bien, le professeur va accompagner les étudiants dans des projets individuels qu'ils ont. Et ça, je trouve que c'est très intéressant.
On parle de rencontre des arts, on parle de rencontre de disciplines. Il y a aussi la rencontre entre l'art et la science qui se passe au lentiste. Je pense au Castellet, par exemple. Donc, c'est un lieu de rencontre aussi de l'art et de la science.
Oui, mais c'était dès le départ, les premiers partenaires, il y a eu des partenaires artistiques comme Ex Machina, Recto Verso, Avatar, c'est-à-dire à Méduse. Donc ça, c'était des partenaires artistiques et en même temps, le Lentis est né aussi sur la dimension d'un partenariat avec des laboratoires de recherche en génie mécanique, laboratoire de robotique dirigé par Clément Gosselin et le laboratoire de vision et systèmes numériques qui est dirigé par Denis Laurendeau. Et avec ces deux laboratoires-là, bien, on a imaginé dès le départ de faire un projet. Donc, on s'est dit, notre partenariat, il va n'être effectif que lorsqu'on va faire un projet. Et donc, l'idée du Castellet électronique, une sorte de scène robotisée, qui est un outil de création. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup aux outils qui favorisent l'écriture scénique. Et donc, on s'est dit, ah, bien, on va faire une sorte de maquette d'une scène robotisée comme on aimerait l'avoir en vrai, là, sur un vrai plateau. Et donc, les trois laboratoires, on a fonctionné ensemble pour créer ce Castellet-là qui, même si c'est un prototype, est encore au cœur de création actuellement. Au dernier mois multi, on a vu le Castellet électronique à l'œuvre dans une des créations là-bas. Le projet de recherche-création, c'est aussi de quelquefois utiliser des nouvelles technologies pour développer à la fois les langages, mais aussi développer ces technologies-là. Avec nos demandes, on favorise le développement aussi de technologies du côté d'ingénierie parce que on a des demandes qui ne sont pas celles de l'industrie normale. T'sais. Donc, alors à ce moment-là, ils se posent de nouvelles questions. Et nous autres, la technologie, elle nous parle, puis elle nous permet de faire aussi de nouveaux potentiels de création. Donc, et à un moment donné, on exige, on dit, ah, bien, s'il y avait une nouvelle fonctionnalité, ça serait intéressant. Et donc, là, encore là, l'effet de boucle, à chaque fois qu'on on utilise quelque chose, bien, on rêve toujours à une fonctionnalité supérieure. Donc, et les autres, bien, quelquefois, ça les intéresse parce qu'ils savent que ça pourrait... Souvent, ils ont pris... Le Castellet électronique a permis, je l'ai su par la suite, le développement d'autres projets à côté parce qu'on avait des solutions qui ont servi finalement à d'autres projets. Donc ça, cette relation-là, art et science, est assez intéressante.
Puis toutes ces, justement, ces avancées technologiques-là, est-ce que par la suite, ça se transpose à l'extérieur de l'université, justement, les théâtres ou les producteurs... je connais pas là, les termes exacts là, des gens qui interviennent, mais les troupes ou autres, est-ce qu'ils utilisent ces technologies-là pour créer, justement?
Je parlais de réseau tantôt. Donc, quand on fait du développement un peu technologique comme ça, ben c'est clair que on développe des expertises. Donc ça, c'est des expertises à un moment donné qui vont... Lorsqu'on sait que quelqu'un est capable de programmer tel élément, ou donc c'est sûr qu'il va se retrouver dans d'autres projets parce que les gens vont voir, « Hey, t'as fait ça, est-ce que tu peux venir m'aider à faire telle autre chose? » Alors ça, je pense que c'est cette dimension-là de développement de réseau est importante. Puis aussi le développement des langages. Ça, je suis assez convaincu dans toute, je dirais, ma carrière que quelquefois, on fait des expérimentations, quelquefois audacieuses, qui n'ont pas nécessairement le résultat artistique convenu nécessairement, mais une partie de l'expérimentation pourrait être reprise dans des spectacles autres. Et ça, je l'ai vu à nombreuses reprises, à un moment donné, dans lesquelles, ah, tiens, il y a une idée, un langage qui s'est développé et qui va être retrouvé par un autre groupe, par exemple.
Robert Faghi, les projets ne manquent pas de votre côté, ça bouillonne. Alors, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes là, de votre temps pour nous rencontrer ici à Facteur Humain. Ça a été un plaisir.
Bien, merci à vous.
Facteur Humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.